Charles se trouvait si dépaysé dans cette salle, si loin du vaste château et de la fastueuse existence qu'il supposait à son oncle, qu'en regardant attentivement Madame des Grassins, il aperçut enfin une image à demi effacée des figures parisiennes. Il répondit avec grâce à l'espèce d'invitation qui lui était adressée et il engagea naturellement une conversation dans laquelle Madame des Grassins baissa graduellement sa voix pour la mettre en harmonie avec la nature de ses confidences. Il existait chez elle et chez Charles un même besoin de confiance. Aussi, après quelques moments de causerie coquette et de plaisanterie sérieuse, la droite provinciale put-elle lui dire, sans se croire entendue des autres personnes, qui parlaient de la vente des vins dont s'occupait en ce moment tout le Saumurois, « Monsieur, si vous voulez nous faire l'honneur de venir nous voir, vous ferez très certainement autant de plaisir à mon mari qu'à moi. » Notre salon est le seul dans Saumur où vous trouverez réunis le haut commerce et la noblesse. Nous appartenons aux deux sociétés qui ne veulent se rencontrer que là parce qu'on s'y amuse. Mon mari, je le dis avec orgueil, est également considéré par les uns et par les autres. Ainsi, nous tâcherons de faire diversion à l'ennui de votre séjour ici. Si vous restiez chez M. Grandet, que deviendriez-vous, bon Dieu ? Votre oncle est un grigou qui ne pense qu'à ses provins. Votre tante est une dévote qui ne sait pas coudre deux idées, et votre cousine est une petite sotte, sans éducation, commune, sans dot, et qui passe sa vie à raccommoder des torchons. Elle est très bien, cette femme, se dit en lui-même Charles Grandet en répondant aux minauderies de Madame des Grassins. Il me semble, ma femme, que tu veux accaparer monsieur, dit en riant le gros et grand banquier. Monsieur, dit enfin Adolphe à Charles d'un air qu'il aurait voulu rendre dégagé. « Je ne sais si vous avez conservé quelques souvenirs de moi. J'ai eu le plaisir d'être votre vis-à-vis à un bal donné par monsieur le baron de Nissingen et... »« Parfaitement, monsieur, parfaitement !» répondit Charles, surpris de se voir l'objet des attentions de tout le monde. « Monsieur est votre fils ? » demandait-il à madame des Grassins. L'abbé regarda malicieusement la mère. « Oui, monsieur, » dit-elle. « Vous étiez donc bien jeune à Paris, » reprit Charles en s'adressant à Adolphe. Madame des Grassins interrogea l'abbé par un regard d'une étonnante profondeur. « Il faut venir en province, » dit-il en continuant, « pour trouver des femmes de 30 et quelques années aussi fraîches que les madames, après avoir eu des fils bientôt licenciés en droit. Il me semble être encore au jour où les jeunes gens et les dames montaient sur des chaises pour vous voir danser au bal, madame, » ajouta l'abbé en se tournant vers son adversaire femelle. Pour moi, vos succès sont d'hier. Oh, le vieux scélérat, se dit en elle-même Madame des Grassins. Me devinerait-il donc ? Il paraît que j'aurai beaucoup de succès à Saumur, se disait Charles en déboutonnant sa redingote, se mettant la main dans son gilet et jetant son regard à travers les espaces pour imiter la pose donnée à Lord Byron par Chantrey. L'inattention du père Grandet, ou pour mieux dire, la préoccupation dans laquelle le plongeait la lecture de sa lettre, n'échappèrent ni au notaire, ni au président, qui tâchait d'en conjecturer le contenu par les imperceptibles mouvements de la figure du bonhomme, alors fortement éclairée par la chandelle. Le vigneron maintenait difficilement le calme habituel de sa physionomie. D'ailleurs, chacun pourra se peindre la contenance affectée par cet homme en lisant la fatale lettre que voici. « Mon frère, voici bientôt 23 ans que nous nous sommes vus. Mon mariage a été l'objet de notre dernière entrevue, après laquelle nous nous sommes quittés joyeux l'un et l'autre. Certes, je ne pouvais guère prévoir que tu serais un jour le seul soutien de la famille, à la prospérité de laquelle tu applaudissais alors. Quand tu tiendras cette lettre en tes mains, je n'existerai plus. Dans la position où j'étais, je n'ai pas voulu survivre à la honte d'une faillite. Dans 3 jours... Paris dira « Monsieur Grandet était un fripon. Je me coucherai, moi, probe, dans un linceul d'infamie. Je ravis à mon fils et son nom que j'entache et la fortune de sa mère. Il ne sait rien de cela, ce malheureux enfant que j'idolâtre. Nous nous sommes dit adieu tendrement. Il ignorait, par bonheur, que les derniers flots de ma vie s'épanchaient dans cet adieu. Grandet, tu es mon aîné. Tu me dois ta protection. » Fais que Charles ne jette aucune parole amère sur ma tombe. Mon frère, si je t'écrivais avec mon sang et mes larmes, il n'y aurait pas autant de douleur que j'en mets dans cette lettre. car je pleurerai, je saignerai, je serai mort, je ne souffrirai plus. Mais je souffre, et vois la mort d'un œil sec. Te voilà donc le père de Charles. Il n'a point de parents du côté maternel, tu sais pourquoi. Pourquoi n'ai-je pas obéi aux préjugés sociaux? Pourquoi ai-je cédé à l'amour? Pourquoi ai-je épousé la fille naturelle d'un grand seigneur? Charles n'a plus de famille. Oh, mon malheureux fils, mon fils. Il m'aimait bien, Charles. J'étais si bon pour lui. Je ne le contrariai jamais. Il ne me maudira pas. D'ailleurs, tu verras, il est doux. Il tient de sa mère. Il ne te donnera jamais de chagrin. Pauvre enfant, accoutumé aux jouissances du luxe, il ne connaît aucune des privations auxquelles nous a condamnés l'un et l'autre notre première misère. Et le voilà ruiné, seul. Oui, tous ses amis le fuiront. Et c'est moi qui serai la cause de ses humiliations. Ah, je voudrais avoir le bras assez fort pour l'envoyer d'un seul coup dans les cieux, près de sa mère. Folie! Je reviens à mon malheur, à celui de Charles. Je te l'ai donc envoyé pour que tu lui apprennes convenablement et ma mort et son sort à venir. Sois un père pour lui, mais un bon père. Ne l'arrache pas tout à coup à sa vie oisive, tu le tuerais. Je lui demande à genoux de renoncer aux créances qu'en qualité d'héritier de sa mère il pourrait exercer contre moi. Mais c'est une prière superflue. Il a de l'honneur et sentira bien qu'il ne doit pas se joindre à mes créanciers. Fais-le renoncer à ma succession en temps utile. Révèle-lui les dures conditions de la vie que je lui fais. Et s'il me conserve sa tendresse, dis-lui bien en mon nom que tout n'est pas perdu pour lui. Oui, le travail qui nous a sauvés tous deux peut lui rendre la fortune que je lui emporte. Et s'il veut écouter la voix de son père, qui pour lui voudrait sortir un moment du tombeau, qu'il parte, qu'il aille aux Indes. Mon frère, Charles est un jeune homme probe et courageux. Tu lui feras une pacotille, il mourrait plutôt que de ne pas te rendre les premiers fonds que tu lui prêteras, car tu lui en prêteras. Grandet, sinon tu créerais des remords. Ah, si mon enfant ne trouvait ni secours ni tendresse en toi, je demanderais éternellement vengeance à Dieu de ta dureté. Adieu, mon frère. Que toutes les bénédictions de Dieu te soient acquises pour la généreuse tutelle que je te confie et que tu acceptes, je n'en doute pas. Il y aura sans cesse une voix qui priera pour toi dans le monde où nous devons aller tous un jour et où je suis déjà. Victor Ange Guillaume Grandet. Vous causez donc, dit le père Grandet en pliant avec exactitude la lettre dans les mêmes plis et la mettant dans la poche de son gilet. Il regarda son neveu d'un air humble et craintif, sous lequel il cacha ses émotions et ses calculs. « Vous êtes-vous réchauffé ?»« Très bien, mon cher oncle. »« Eh bien, où sont donc nos femmes ?» dit l'oncle, oubliant déjà que son neveu couchait chez lui. En ce moment, Eugénie et Madame Grandet rentrèrent. « Tout est-il arrangé là-haut ? » leur demanda le bonhomme en retrouvant son calme. « Oui, mon père. »« Eh bien, mon neveu, si vous êtes fatigué, Nanon va vous conduire à votre chambre. » « Dame, ce ne sera pas un appartement de mirliflore, mais vous excuserez de pauvres vignerons qui n'ont jamais le sou. Les impôts nous avalent tout. »« Nous ne voulons pas être indiscrets, Grandet, » dit le banquier. « Vous pouvez avoir à jaser avec votre neveu. Nous vous souhaitons le bonsoir à demain. » À ces mots, l'assemblée se leva et chacun fit la révérence suivant son caractère. Le vieux notaire alla chercher sous la porte sa lanterne et vint l'allumer en offrant aux des Grassins de les reconduire. Madame des Grassins n'avait pas prévu l'incident qui devait faire finir prématurément la soirée et son domestique n'était pas arrivé. « Voulez-vous me faire l'honneur d'accepter mon bras, madame ?» dit l'abbé Cruchot à Madame des Grassins. L'abbé emmena la jolie dame assez lestement pour se trouver à quelques pas en avant de la caravane. « Il est très bien, ce jeune homme, madame, » lui dit-il en lui serrant le bras. « Adieu, panier, vendanges sont faites. » Il vous faut dire adieu à Mademoiselle Grandet. Eugénie sera pour le Parisien. À moins que ce cousin ne se soit amouraché d'une Parisienne, votre fils Adolphe va rencontrer en lui le rival le plus... Laissez donc, monsieur l'abbé. Ce jeune homme ne tardera pas à s'apercevoir qu'Eugénie est une niaise, une fille sans fraîcheur. L'avez-vous examinée ? Elle était ce soir jaune comme un coin. Vous l'avez peut-être déjà fait remarquer au cousin. Et je ne m'en suis pas gênée. Mettez-vous toujours auprès d'Eugénie, madame, et vous n'aurez pas grand-chose à dire à ce jeune homme contre sa cousine. Il fera de lui-même une comparaison qui... D'abord, il m'a promis de venir dîner après-demain chez moi. Ah, si vous vouliez, madame, dit l'abbé. Et que voulez-vous que je veuille, monsieur l'abbé? Entendez-vous ainsi me donner de mauvais conseils? Je ne suis pas arrivée à l'âge de 39 ans, avec une réputation sans tache, Dieu merci, pour la compromettre même quand il s'agirait de l'empire du grand Mogol. Nous sommes à un âge, l'un et l'autre, auquel on sait ce que parler veut dire. Pour un ecclésiastique, vous avez en vérité des idées bien incongrues. Il est clair, disait le président de sa grosse voix, que M. Grandet de Paris envoie son fils à Saumur dans des intentions extrêmement matrimoniales. Mais alors le cousin ne serait pas tombé comme une bombe, répondait le notaire. Cela ne dirait rien, dit M. des Grassins. Le bonhomme est cachotier.